Merci. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaite réagir. Aude, peut-être?
Oui, simplement pour aller tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Sébastien, ce qui est très intéressant dans ces échanges-là, c'est l'acculturation réciproque au fond. Et donc, moi, je le vois un peu in vitro avec les chercheurs que l'on accueille sous toute forme de dispositifs. C'est cette sensibilisation à l'objet, à l'iconographie, etc., que n'ont pas forcément les disciplines concernées, et ce détour par l'objet, comme dans le cas du séminaire que je citais de Cyril, mais comme aussi ce qui se passe quand on part en binôme ou en trinôme avec des artistes, des conservateurs et des chercheurs et des acteurs en enquête, par exemple. C'est vraiment ces approches métiers différentes qui interagissent entre elles. Et puis, je veux juste dire aussi que pour un musée comme le MUCEM, c'est une absolue nécessité parce que j'ai parlé des pôles de collection, j'en ai évoqué un certain nombre, ce sont des pôles thématiques qui, par définition, ne peuvent pas faire l'objet. Je veux dire, personne n'est un expert de corps, apparence, sexualité ou du pôle vie publique ou du pôle vie domestique. Et encore moins à une échelle euro-méditerranéenne qui suppose des connaissances de terrain, des compétences linguistiques diverses, etc. Donc c'est aussi. Le musée n'a pas vocation à devenir une université, mais du coup, il a vraiment vocation, le MUCEM, à travailler avec l'ensemble de ses chercheurs et de ses disciplines et de ses compétences différentes.
Une réaction, Pierre, peut-être?
Oui, peut-être juste un mot, parce que je vois que le temps file, pour dire que je crois que nous redécouvrons aujourd'hui tous ensemble une évidence, c'est que les musées sont des lieux de recherche et que de nombreuses expositions eh bien, s'inscrivent dans des programmes de recherche parfois au long cours et que s'établissent des relations non pas verticales entre des universitaires qui posséderaient la science infuse et puis des conservateurs qui s'occuperaient de la dimension opérationnelle, mais évidemment des relations très horizontales, de complémentarité. J'en veux pour preuve la première exposition, enfin disons, de grande taille que j'ai pu organiser, qui était en fait au musée Guimet en 2018. Co-organisé avec Sophie Macariou à l'époque, eh bien, il s'agissait d'une véritable collaboration où nous sommes allés voir Sophie Macariou, qui, avec ses équipes, a découvert qu'elle possédait dans les fonds du musée une incroyable collection de cartes asiatiques. Et ces cartes, eh bien, asiatiques, étaient considérées jusque-là comme des objets, des outils, disons, des outils du pouvoir, ou des outils de localisation dans l'espace qu'on pouvait exposer, mais uniquement dans les bibliothèques, notamment à la Bibliothèque nationale de France, avec sa fameuse exposition sur les Portulans. Et à ce moment-là, eh bien, les conservatrices et conservateurs se sont aperçus que ces cartes étaient également des œuvres d'art. Et donc, c'est cette rencontre qui a permis d'exploiter une grande partie des cartes asiatiques que possèdent les institutions françaises, pas seulement le musée Guimet, mais aussi la bibliothèque du Collège de France, d'autres grandes institutions françaises, mais aussi européennes. Et donc, ça montre bien que pour nous, en tout cas universitaires, et pour ma part, nous avons besoin de ce partenariat avec les conservatrices et les conservateurs, les historiennes et les historiens de l'art, qui nous apportent leurs compétences et leur curiosité pour ces sujets qui ne suscitent pas forcément d'intérêt dans les universités.
Merci beaucoup. Il y a une question qui a été posée sur le sujet de la diversité sous l'aspect territorial. Je vous propose qu'on la note bien et on la prend, mais on va peut-être avancer un petit peu plus dans le déroulé de notre après-midi et entendre maintenant les deux collègues qui vont revenir de manière plus détaillée sur des exemples d'expositions qui se sont affrontées à cette question de la représentation de la diversité. André Delpech, tout d'abord, directeur du Musée de l'Homme, autour de l'exposition Être beau. Et puis ensuite, nous entendrons Christine Barthes du Musée du Quai Branly. André, c'est à vous.
Oui, merci Christian et merci à l'INP, à l'École du Louvre, de m'avoir invité à participer à ces journées d'études qui sont tout à fait passionnantes et qui rentrent évidemment pleinement en résonance avec nombre des sujets dont on débat au Musée de l'Homme que j'ai le bonheur de diriger depuis 2017, donc le Musée de l'Homme qui a été entièrement rénové, repensé, donc à la suite des départs des collections, aussi bien au MUCEM pour les collections Europe qu'au Quai Branly, bien entendu. Donc, le sujet dont on m'a proposé de parler est une exposition qu'on a réalisée en décembre 2019 et qui a duré une bonne année, qui a été largement impactée évidemment par l'épidémie qu'on connaît tous, et qui était une expo photo que nous avions intitulée « Être beau ». Mais avant de parler de l'expo elle-même, et puis comme un petit clin d'œil au débat de ce matin autour du genre, c'est vrai que de participer à un tel débat quand on dirige un musée qui s'appelle le Musée de l'Homme, fut-il avec un grand H, soulève des débats. Et dans tous les débats qui s'agitent aujourd'hui sur la planète, on peut observer qu'il y a aussi des titres de musées qui commencent à poser problème. À Genève, le musée d'ethnographie de Genève lance une consultation pour changer de nom. Et puis, je me suis amusé à mettre cette image du Museum of Man de San Diego, en Californie, qui vient de changer de nom et qui s'appelle dorénavant le Museum of Us, donc le musée de nous, où on voit une silhouette d'un homme qui raye le mot « man » et une silhouette féminine qui donc trace ce nouveau logo, ce nouveau titre, plutôt « us ». Donc, peut-être serons-nous un jour appelés à changer de nom aussi de ce point de vue-là. Sébastien Goukalp a présenté lui-même cette petite affiche qui était l'expo manifeste, je dirais, du Musée de l'Homme, qui est la première grande expo réalisée après son ouverture, qui s'appelait donc « Nous et les autres, des préjugés au racisme », et qui évidemment débattait de toutes ces questions dont on peut parler, dont on a parlé ce matin. Et je reprendrai juste les propos des deux commissaires dans une introduction, rappeler que le racisme consiste à considérer les différences entre individus, qu'elles soient physiques ou culturelles, comme héréditaires, immuables et naturelles, et qui établit donc une hiérarchie entre des catégories d'êtres humains et qui peut se traduire par des sentiments et des actes allant de la discrimination jusqu'à l'extermination de l'autre. Alors évidemment, cette exposition débattait de ces questions-là sur les bases à la fois scientifiques comme la génétique et tous les débats culturels. Et de la même façon, donc ce musée de l'homme qui s'empare évidemment de ces thématiques et ensuite suite à cette première grande exposition donc de 2017, rencontrait aussi une commémoration qui s'est trouvée au Palais de Chaillot avec les 80 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Observons que de plus en plus de médias parlent des droits humains, un peu comme en anglais ou en espagnol, et qui a été signé en 1948 à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU qui se tenait justement au Palais de Chaillot, au Théâtre national. Pour cette saison, nous avons réalisé un certain nombre d'événements dans une série d'événements que nous avons baptisé Saison en droit, avec des expos photos, des expos aussi de street artistes et autres. Et juste aussi là un petit clin d'œil, puisque on évoquait notamment au travers de ces artistes, on leur a demandé d'illustrer un certain nombre des articles de la Déclaration universelle des droits humains. Et évidemment, tout le monde connaît le premier qui est « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ». Et c'est un petit peu en résonance à ce titre et à ce slogan « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité dans cette foulée, j'ai eu l'occasion de rencontrer Frédérique de Gelt, qui est ici à gauche sur la photo, qui est écrivaine et journaliste et réalisatrice, et Astrid Dicrola-Lanza, qui est photographe indépendante, qui toutes les deux venaient de publier chez Stock un ouvrage qui s'appelait « Être beau » et qui souhaitaient voir avec nous, au Musée de l'Homme, si on pouvait en faire une exposition. Évidemment, aussitôt dit, aussitôt présenté, il était évident qu'il nous fallait accepter ce projet d'exposition, et c'est comme ça qu'a été montée cette exposition photo qui a duré donc du 4 décembre 2019 et que nous avons fait se prolonger jusqu'à janvier 2021. Cette exposition photo, donc dans notre salle qu'on appelle le foyer Germaine Tillion, présentait 26 photographies qui en fait illustraient 18 portraits de personnes qu'on a coutume de qualifier de handicapées. Et l'interrogation qu'on pouvait se poser justement, c'était: est-ce que finalement, dans notre société, on considère aussi comme libres et égaux en dignité et en droit les personnes que justement notre société a coutume d'appeler handicapées? C'était pour nous l'occasion d'une grande interrogation. Que signifie cette différenciation entre des êtres humains qui d'un côté seraient « normaux » entre guillemets et d'autres qui seraient handicapés? Avec une question autour du handicap qui rejoint les éternelles séparations ethnocentriques entre un « nous » et les autres. Évidemment, pour nous qui avions fait cette exposition, avec tout le passé aussi autour de l'histoire ethnographique et coloniale de la France, c'était important de le faire. Et donc, on souhaitait poser ce genre de questions au travers de cette exposition avec « c'est quoi être beau ? C'est quoi un handicap ? Que veut dire être normal ? Que veut dire être handicapé ?» Et donc, vous allez voir, je vais peut-être vous passer d'abord, avant de débattre un peu plus, un certain nombre de photos qui ont illustré cette exposition. Je citerai volontiers Frédéric de Gelt, l'écrivaine donc, qui était une des co-commissaires de cette exposition, qui a interrogé « Et si le vrai handicap n'était pas le leur, mais plutôt le nôtre, nous qui refusons de les accepter comme ils sont ?» Et c'est vrai qu'on pourrait se questionner aussi, qu'on pourrait mettre sous ce vocable de handicapé tout un tas d'autres exemples de gens peut-être inadaptés à notre vie en société par leur agressivité, leur individualisme, leur violence, leur lâcheté, leur égoïsme, etc. Et pourtant, malheureusement, entre êtres humains normaux et êtres humains porteurs du handicap, il y a une sorte de ligne invisible mais séparatrice qui persiste dans nos systèmes de pensée, rejetant la différence dans cette frontière tracée entre des personnes valides et d'autres handicapées, et avec, au bout du compte, une forme de racisme et de stéréotypes qui rejette ces personnes. Alors, l'exposition « Être beau », donc au travers de ces différents portraits, avait choisi, c'était un long travail qui a duré 3 années, qu'ont mené les deux commissaires, de véritables contacts, discussions et acceptations avec un certain nombre de personnes qui présentaient aussi bien des handicaps visibles que des handicaps qu'on pourra qualifier d'invisibles. C'est ainsi, vous voyez que sur ces photos-là, on a des choses évidemment qui sautent aux yeux, ou en tout cas visuellement parlant, qui nous percutent évidemment quand on voit une personne dans un fauteuil roulant ou qui est donc à la mobilité limitée. Et c'est intéressant aussi de voir le discours qui a été produit et qui apparaissait sur les cartels qui étaient à côté de ces photos, qui étaient des témoignages ou des remarques des personnes elles-mêmes ou de leur entourage. Ainsi, à droite, vous voyez cette personne qui est une harpiste, Anja, qui a subi un accident et qui est devenue paraplégique, pardon, et ne voulant pas renoncer à jouer de la harpe, elle a inventé toute une série d'appareillages avec de l'informatique qui lui permet de jouer à la place de ses pédales avec ceci. Et c'était très intéressant de l'entendre déclarer qu'elle avait même eu recours à la chirurgie esthétique pour se réapproprier son corps, qui pourtant avait subi de nombreuses opérations. Et elle disait « Je n'étais plus grande, mince et brune, j'étais devenue pulpeuse, blonde et je me déplaçais en fauteuil, c'était une féminité dans laquelle je pouvais désormais m'épanouir. » Et en lisant et en préparant cette petite intervention, le hasard a voulu que dans Le Monde d'hier, daté du 8 avril, il y avait un long article avec interview de Odile Gautreau, qui est considérée, je cite Le Monde, comme une étoile montante du mannequinat qui veut décloisonner les représentations du corps féminin. Et c'était très intéressant de voir ces déclarations. Je vous invite à lire cette longue interview et article où elle disait, je cite, « Notre rapport au monde est largement déterminé par les images qu'on absorbe. Je joue à changer les codes. » Et elle citait ce mouvement venu des États-Unis, Body Positive, et qui se développe un petit peu en France, qui invite donc les femmes, mais moi je pourrais dire de manière plus générale l'ensemble des humains, à s'exhiber fièrement, qu'important, leur morphologie, leur âge, leur couleur de peau ou leur handicap. Donc, dans cette exposition, c'était une partie de ces photos. On pouvait effectivement interroger aussi au travers de cet exemple la question de la sensualité, de la beauté féminine, du rapport aussi d'une mère avec son enfant, fut-elle en fauteuil roulant, ou bien encore à la fois une vision très technologique, très moderne, au travers de cette personne qui a perdu un bras et qui en a créé un lui-même. C'est un ingénieur artificiel qu'aujourd'hui il commercialise. Et puis aussi cette photo et cette rencontre avec cette personne dont sans doute vous avez entendu parler, qui est un des premiers à avoir subi une greffe du visage, et évidemment qui se trouve à s'interroger face à un nouveau visage. Parmi les photos, il y avait ces deux photos de Pauline et Eva, et qui sont deux jumelles qui sont trisomiques. Et là, je fais rapidement une citation de leur père, qui était inscrite dans l'exposition, disant « Bien sûr, on les regarde dans la rue, elles sont jumelles, elles sont belles et elles sont trisomiques, elles attirent le regard et ça ne me dérange pas, leur joie de vivre est mon cadeau. Un jour, un homme les entendant parler dans un langage qui n'appartient qu'à elles, a demandé « Mais quelle langue parle-t-elle ?» Et il lui a répondu « Elle parle mongolien. Vous ne parlez pas le mongolien, vous ?» Et effectivement, c'était ce genre d'illustration qui, je pense, a pu percuter le public au travers de cette exposition, et aussi, comme je l'évoquais tout à l'heure, au travers de certains handicaps invisibles, comme des personnes sourdes, malentendantes ou malvoyantes ou aveugles. Et de ce point de vue-là aussi, il me paraît intéressant de souligner cette photographie de Laetitia Bernard, qui est journaliste à la direction des sports à France Inter, et de citer aussi cette phrase qu'elle avait inscrite et qu'elle disait à la photographe « C'est quand même fou de poser pour ces photos que je ne verrai jamais ». Donc, cette exposition était vraiment l'occasion pour nous de débattre de la place et du regard qu'on peut avoir dans notre société sur ces personnes considérées comme en situation de handicap. Et à cette occasion, et ça rejoint aussi l'engagement que je considère comme fondamental, en tout cas comme un musée comme le nôtre dans la société, la réalisation de cette exposition m'a amené à rentrer en contact avec le secrétariat d'État aux personnes handicapées, la personne de Madame Puzel, que vous voyez ici en bas à gauche sur la photo, qui aussitôt a adhéré à ce projet, nous a soutenus, et donc pour l'ouverture de cette exposition que nous avons réalisée en deux temps, un premier soir, nous avons, en présence de la ministre, des deux commissaires et aussi de la plupart des personnes qui ont été photographiées, qui ont eu l'occasion de prendre la parole à cette occasion, nous avons fait une première inauguration. Mais la deuxième chose qui nous a valu aussi quelque part, en tout cas une grande fierté, et de montrer que ce genre d'action peut être très positif sur un plan politique, c'est qu'à l'issue de ces discussions, il a été convenu que l'ouverture de l'exposition se déroulerait le 4 décembre 2019, qui coïncide avec la Journée internationale des personnes handicapées, et le gouvernement a décidé de tenir son Conseil des ministres interministériel sur le handicap au Musée de l'Homme. Et c'est ainsi que le 3 décembre 2019, nous avons reçu au Musée de l'Homme, pour cette inauguration très solennelle, le Premier ministre et la plupart des membres du gouvernement qui ont tenu à huis clos leur réunion. Et à la suite de cette réunion, il y a eu une soirée événement où un certain nombre de discours ont été tenus en présence de différents ministres et de différentes personnalités, en présence aussi de la plupart des personnes photographiées et d'autres personnes des réseaux associatifs liés au monde du handicap qui ont pu ainsi s'exprimer avec des prises de parole des uns et des autres. Et puis, ce qui me paraît important aussi, c'était qu'à cette occasion, la plupart des patrons des chaînes télévisées françaises étaient sur place et il y a eu une signature d'une charte du CSA sur la représentation du handicap dans les médias audiovisuels. Et pour bien insister aussi, essayer, tout à l'heure quelqu'un parlait d'invisibilité, je pense, dans une des discussions, de montrer aussi un petit peu ces personnes qui sont souvent invisibles dans les médias comme dans l'espace public ou sur les photos qu'on peut voir orner nos places dans nos villes et nos campagnes. Donc, c'était vraiment un moment important, d'autant qu'il faut aussi rappeler que chose qu'on a tendance à oublier, qu'aujourd'hui, en France, en tout cas, c'est des chiffres de l'INSEE de 2018, on considère que 2,8 millions de personnes sont considérées comme en situation de handicap. On a souvent, effectivement, une vision très restrictive de ce que c'est le handicap. Et aussi, il faut avoir une vision de savoir que ce handicap, n'importe lequel d'entre nous, un jour ou l'autre, sera handicapé, ne serait-ce qu'en fin de vie ou dans des moments d'accident ou de maladie, qu'elle soit physique ou psychiatrique, cancer, sclérose en plaques, troubles psychiques ou cognitifs, etc. Et on sait très bien toute la difficulté que des personnes en situation de handicap, comme d'autres, on l'a évoqué tout à l'heure, pour leur couleur de peau ou leur origine, peuvent être stigmatisés, rejetés, discriminés, et comment il leur est souvent difficile de trouver un travail véritable, puisque les pourcentages, là aussi, sont assez frappants. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est le double des personnes, entre guillemets, valides. Donc, cette exposition, de ce point de vue-là, malgré le fait que une large partie elle n'a pas pu être vue à cause du Covid. On a néanmoins, je trouve, un grand écho dans la presse qui l'a relayé. Et puis, on a même eu le soir de cette inauguration, la visite de personnalités éminentes, à commencer par l'épouse du président de la République, pour vous montrer que même sur un sujet comme celui-ci, on peut arriver à bouger un monde peut-être qui ne vient pas forcément visiter nos expositions, en tout cas l'exposition photo dans notre propre musée. Avec les deux commissaires, nous ne souhaitions pas en rester là, et comme finalement cette exposition n'a pas pu être vue énormément par beaucoup de gens au Musée de l'Homme, on a décidé de la faire sortir hors les murs. Et donc on a fait une première réalisation pour la date anniversaire de cette exposition, coïncidant une fois de plus à la Journée internationale du handicap, donc le 3 décembre 2020. Pendant un mois, l'exposition a été affichée sur les grilles de la mairie du 16e arrondissement qui voisine le Musée de l'Homme. Et puis, pour ceux que ça intéresse, suite à une discussion avec l'Hôtel de Ville de Paris, cette exposition sera sur les grilles du parc autour de la Tour Saint-Jacques, donc en plein centre de Paris, et donc sera une manière de porter à la vue de tout le monde ces personnes en beauté telles qu'elles ont pu être photographiées par donc Astrid Dicrola Lanza. Pour terminer, au travers de cette photo qui est, me semble-t-il, une des photos emblématiques de cette exposition, je voudrais citer la phrase qui était très touchante qui a pu être dite par une des personnes photographiées à l'occasion de cette exposition. Je la cite, « Nous subissons tellement de rejets dès l'enfance, à l'adolescence et même une fois adulte, que cette entrée au Musée de l'Homme me donne l'impression que pour une fois, je suis accepté comme les autres humains. » Ce sera ma conclusion. Je vous remercie.
Merci beaucoup André Delpech. Je vous propose, sans plus attendre, que nous entendions maintenant Christine Barthes, du musée du Quai Branly, qui a été commissaire de l'exposition « À toi appartient le regard ». Christine Barthes, vous êtes responsable de l'unité patrimoniale des collections photographiques du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Et je vous passe maintenant la parole. Nous prendrons ensuite l'ensemble des questions pour conclure cet après-midi.
Merci pour cette invitation. Alors, donc, je vais revenir sur cette exposition je vais vous proposer de la reparcourir rapidement ensemble en revenant sur quelques points clés, quelques enjeux qui se sont dessinés pendant la préparation et puis pendant l'exposition elle-même. Alors, c'est vrai qu'on a effectivement parlé de visibilité et d'invisibilité. J'ai beaucoup apprécié les communications, notamment ce matin, sur la question du genre, et j'ai trouvé beaucoup d'écho avec les questions qui se posent sur mes centres d'intérêt et de recherche. Cette exposition, donc, elle a eu lieu entre elle a ouvert à la fin du mois de juin, elle devait ouvrir à la fin du mois de mars, et évidemment, l'ouverture a été décalée en raison du Covid. Elle a finalement eu lieu dans une période pas trop mauvaise, puisqu'elle s'est ouverte le 30 juin et elle a dû se terminer 3 jours plus tôt que la date prévue à la fin octobre avec le nouveau confinement. Donc, c'est vraiment une exposition qui a trouvé sa place pile entre deux confinements, qui n'a peut-être pas trouvé tout le public qu'elle aurait dû, mais qui a quand même été assez visitée. C'est une exposition qui a été montée... qui a demandé 4-5 ans de travail, en fait, mais qui se situe vraiment dans le droit fil des préoccupations du musée, qui se sont dessinées depuis l'ouverture en 2006, où on s'est posé la question de la visibilité et de l'étude de la création contemporaine mondiale. Et par mondiale, j'entends le monde entier, et pas seulement comme ce qu'on voit le plus souvent ou ce qu'on connaît le mieux, en tout cas en Europe, qui est la production des artistes européens ou états-uniens. Donc, depuis 2006, le musée du Quai Branly a essayé de mettre en place, en fait, toute une série d'actions pour essayer de mieux connaître cette création, spécifiquement par le biais de la photographie, puisqu'on partait d'une collection historique assez ample, et qu'on a décidé à ce moment-là de se pencher d'un peu plus près sur cette création photographique internationale, puisqu'on a fait le constat que, finalement, dans ce paradoxe de ce monde mondialisé, on pense que les communications, que les transports sont assez faciles pour aller d'un endroit en autre. Et en fait, quand on creuse un peu la question, on s'aperçoit assez vite qu'on connaît en réalité très mal ces productions, qu'on manque beaucoup d'outils pour mieux les connaître. Et donc, depuis 2006, on a mis en place un programme notamment d'acquisition, mais aussi un programme de résidence qui nous permet de soutenir des travaux de photographes du monde entier, de soutenir ce travail, mais aussi de le produire, de le faire entrer en collection. Donc, ça nous a permis de prospecter, de voir des choses et de creuser la question de façon assez approfondie. On avait aussi mis en place à partir de 2007 la Biennale Photoquai, qui a eu 5 éditions jusqu'en 2015 et qui visait justement à donner une meilleure visibilité à des productions internationales vraiment mal connues. Mais finalement, cette biennale qui se situe à l'extérieur du musée, dans l'espace des bords de Seine, des quais, permettait de montrer certes des productions, mais d'une façon un petit peu panoramique, comme ça, avec un but qui était finalement de montrer justement le fait qu'il y avait beaucoup de choses qui se produisaient, mais qui en même temps subissaient le revers du panoramique, c'est-à-dire le fait qu'on ne pouvait pas creuser la question très attentivement et notamment monter un vrai projet curatorial. Donc, à partir de 2015, où on a stoppé justement la production de cette biennale Photoquai, la direction du musée m'a demandé de penser à un projet qui se ferait cette fois dans le musée, à l'intérieur, et donc un projet d'exposition. Et je le dis parce qu'il y a un lien finalement assez important, le fait de tout d'un coup, après avoir passé quand même des années de recherche sur ces artistes, sur ces photographes, d'avoir la possibilité de montrer les choses en vrai, dans l'espace du musée et dans le grand espace du musée, puisqu'on occupait les 2000 mètres carrés du rez-de-jardin, ça a constitué pour moi vraiment une bouffée d'air. Et ça peut expliquer une partie des choix que j'ai faits sur certaines œuvres notamment. Donc merci de me donner la parole et de me la donner dans ce cadre des cas pratiques, puisque effectivement moi j'ai du mal à faire autrement que parler à partir des images, donc on va balayer ces images. Je reviens brièvement sur ce long titre, « À toi appartient le regard et la liaison infinie entre les choses », puisque c'est un titre qui agit comme une série de mots-clés, en fait, qui vont être déclinés dans l'exposition. Mais c'est une citation, tiens, j'ai oublié les guillemets, une citation d'un écrivain allemand qui s'appelle Ludwig Ulsen, une citation donc, qui date du 19e siècle, et qui parle de la façon dont le regard agit dans la construction de la vision, dans la construction d'un paysage. L'auteur parle d'une traversée qu'il fait dans un paysage et dans un paysage étranger, et comment, en découvrant les chutes du Rhin, tout d'un coup, il s'aperçoit de ce paysage magnifique et il analyse la façon dont son œil fonctionne. Et vous voyez que ce titre en deux parties, « À toi appartient le regard » et « La liaison finie entre les choses », ça m'a permis de constituer aussi une adresse directe au visiteur en lui disant « Bon, à toi, À toi appartient ce regard, à toi de jouer, ça voulait dire ça aussi. Et la liaison infinie entre les choses, c'était une façon de signaler qu'on avait parlé d'associer des choses et les associer de façon infinie. Donc, regarder, bien regarder, et puis aussi décaler son regard et décentrer les choses. Donc, pour avancer concrètement dans l'exposition, j'ai fait le choix en ouverture de montrer une œuvre très spectaculaire de Samuel Fosso qui travaille avec l'autoportrait en se photographiant lui-même depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, avec une œuvre tout à fait spectaculaire qui a été montrée là pour la première fois, qui s'appelle 666 et qui est constituée de 666 autoportraits. Donc, il fallait concevoir vraiment un espace spécifique pour cette pièce. Et ça m'a paru important tout de suite de la mettre en entrée, de façon à ce que le vertige dans lequel est plongé le visiteur dans cette grande spirale de visages qui lui font face, permettait de mettre au premier plan, de mettre de façon évidente dès le début l'accent sur le corps du visiteur, la question de la perception, comment le visiteur tout d'un coup, dès l'entrée de l'exposition, était face à quelque chose de complètement inattendu, mais aussi quelque chose de très simple à voir, c'est-à-dire qu'on est face à face avec un visage qui nous regarde. Donc c'était une bonne question, une bonne façon pour moi de poser tout de suite la question de la perception et la question du vis-à-vis, la question de l'altérité aussi. Avec après ce préambule, on arrivait dans une première partie qui était là aussi centrée sur cette question du point de vue, avec des travaux ici d'une artiste du Costa Rica qui avait travaillé en Argentine, une artiste mexicaine qui avait travaillé en Islande, donc avec toutes les deux des questions sur l'acte de photographier, qu'est-ce que c'est que de découper un morceau du monde, qu'est-ce que c'est que de cadrer dans un viseur une portion du monde, qu'est-ce que ça signifie. Dans cette partie-là a été montré aussi le travail de José Luis Cuevas, un artiste mexicain qui était parti lors d'une résidence, justement les résidences photographiques du musée, parti au Japon. Et qui nous l'a proposé un regard assez personnel où il essayait d'aller à la rencontre de l'univers littéraire de Kenzaburo Oe. Donc là aussi un décentrement volontaire et assez difficile à réaliser de la part du photographe. Le choix d'exposition visait à exposer ces 26 artistes qui étaient choisis non pas en raison de leur diversité ou de leur origine géographique, mais sur les œuvres vraiment, ou sur leur parcours, et de ne pas créer non plus de séquences trop étanches entre des jeunes artistes, des artistes plus reconnus, et au contraire essayer de provoquer des relations assez fécondes entre ces différents univers. Donc on pouvait avoir ici le travail de la grande photographe sud-africaine Jo Ratcliffe, qui coexistait avec le travail d'un tout jeune photographe thaïlandais qui s'appelle Lekia Tsirikajorn, avec aussi le travail de Guy Tilim, autre photographe sud-africain, lui aussi bien connu. Donc, on arrivait d'emblée dans cette question de comment on regarde, qu'est-ce que ça signifie de poser son regard à travers un appareil photo, de choisir ce qu'on regarde et de cadrer, de garder une image de ce qu'on a vu, chose qu'on voit très bien dans le travail de Guy Tilim. Et on abordait ensuite la deuxième partie, qui était une deuxième partie assez courte en fait en termes de place dans l'exposition, mais qui était une partie importante puisqu'elle traitait de l'image comme un modèle, comme un support de projection, comme un support d'identification aussi. Et on avait le travail très important de Santumu Fokang avec cette œuvre qui s'appelle The Black Photo Album. Et Santumu Fokang, qui est un artiste sud-africain qui est juste décédé en début d'année 2020, avec cette œuvre qui avait une importance vraiment grande pour moi et dont j'avais demandé au scénographe de lui donner une grande importance dans le parcours. Et voyez avec cette injonction, là aussi, comme on l'a vu dans le titre, avec « à toi », avec cet ordre quasiment qui nous est donné, « look at me », « regarde-moi », avec ce diaporama où il reproduit des images du début du XXe siècle de la bourgeoisie noire sud-africaine, image qui avait été devenue qui avait été oublié et qui était devenu en fait assez invisible dans notre espace mental commun. Et cette pièce a eu un vrai retentissement sur les visiteurs. J'ai passé vraiment beaucoup de temps dans l'exposition à observer comment les visiteurs regardaient ou passaient vite devant certaines œuvres. Et celle-ci, clairement, avait un pouvoir de fascination, d'attraction qui fonctionnait très, très bien. Quand je parlais de la liaison infinie entre les choses, l'idée, c'était aussi de mettre des œuvres en rapport et notamment des œuvres qui n'avaient jamais été montrées ensemble. Ici, une vue pendant l'accrochage de la série African Spirit de Samuel Fosso, donc le même artiste qu'on a vu en introduction, avec une série là qui date de 2008 et que le musée avait acquis en 2010, je crois, donc il y a plus de 10 ans maintenant, qui est une série vraiment importante qui s'appelle African Spirits, où Samuel Fosso, toujours sous le biais de l'autoportrait, rejoue des figures, des grandes icônes noires, que ce soit des figures des luttes pour les droits états-uniens ou que ce soit des grandes figures africaines. Et cette série-là, qui avait été exposée par fragments, a été exposée là de façon plus large, il n'y a pas la totalité des images, mais elle était montrée là, donc en conjonction avec cette pièce de Santumo Fokin qui parlait du rapport au modèle. Et on a entendu évidemment des choses sur le modèle noir depuis ce matin et cet après-midi. Du coup, la présentation de cette œuvre fin juin a rencontré un écho évidemment significatif parce que tout d'un coup, dans le contexte de Black Lives Matter, des visiteurs ont témoigné, m'ont dit « mais alors cette œuvre-là, effectivement, ça veut dire quelque chose ». Et c'était à la fois une conjonction de calendrier, mais c'était aussi la reconnaissance du fait que là, le but de Samuel Fosso trouvait son aboutissement, puisqu'il dit vraiment qu'il a voulu rejouer ses figures pour que ces grandes images trouvent une place dans un musée, et que ces grandes figures importantes de l'histoire noire aient vraiment un endroit de visibilité. Donc elle a trouvé à ce moment-là son public, et elle a trouvé son public à un moment particulièrement significatif. Elle était montrée avec une pièce d'Oscar Muñoz, qui est ce grand artiste colombien qui travaille beaucoup sur la question de la disparition des images. Donc là, vous voyez aussi encore une installation qui parle de photographie, mais sans nécessairement montrer des photographies dans un cadre, avec là la main de l'artiste qui intervient en permanence pour changer l'ordre des images et leur donner les faire disparaître ou les faire réapparaître comme ça de façon indéfinie. Donc, je vais avancer un petit peu plus pour arriver dans la troisième partie. Les images se pensent entre elles. On va aborder là encore plus, je vais dire, la question de la liaison entre les choses avec des œuvres de Kateken Kameli, le roman algérien 1, le roman algérien 2 et The Storyteller. Donc ici, des œuvres qui faisaient une part importante au montage, donc au cinéma, à des associations d'images qui permettent de raconter des nouvelles histoires. Et dans ces œuvres, il y avait une œuvre assez importante de ce jeune artiste singapourien, Ori Han, qui combinait une installation, un film, et qui constituait en fait une espèce de leçon, hein, de conférence très, très, très ironique et très brillante aussi, qui avait le don de scotcher les visiteurs. C'est une performance, enfin une œuvre qui dure une heure, mais où si on reste plus de 5-10 minutes, après on peut plus quitter l'œuvre, tellement elle est prenante par la qualité de sa démonstration et aussi la forme avec ce jeune artiste qui adopte un ton comme ça très professoral et qui commence à nous faire un peu la leçon sur le cinéma, sur l'image, sur la mondialisation, sur les rapports de force qu'on peut trouver dans ces images, avec le don de poser des questions complètement inattendues et assez drôles, et en même temps qui captent complètement l'attention. Donc on voit dans ces œuvres-là un ressort important qui s'est révélé important en fait dans l'exposition au final, qui est le ressort de l'ironie et de l'humour, qui permettent justement de décaler aussi les choses et d'être là à un endroit où on n'est pas attendu pour poser l'autre question plutôt que celle qu'on attendait d'emblée. Donc, une pièce qui a trouvé là aussi un retentissement assez important. Ici, une pièce de Brooke Andrew, grand artiste australien, donc extrêmement connu en Australie, beaucoup moins en Europe, bien qu'il ait, il est maintenant une galerie en France, donc on commence à le voir apparaître, qui a travaillé avec toute une série de projections. Une pièce qui a été conçue spécifiquement pour l'exposition, avec un travail en profondeur de l'artiste aussi, à partir des archives filmiques du musée. Donc une façon aussi de reposer un nouveau regard sur ces films ethnographiques, mais aussi ces images d'actualité. Face à cette œuvre, hein, une œuvre très importante de Dean Culley, que je montre rapidement, qui a été une œuvre compliquée à montrer à cause du confinement, puisqu'elle était bloquée aux États-Unis, qu'on a pu la montrer on a pu la monter en catastrophe 2 jours avant l'ouverture, quand elle a fini par arriver. Donc voilà, maintenant à chaque fois que je la vois, je pense aux conditions dans lesquelles on l'a accrochée, et malheureusement sans l'artiste qui devait être là pour faire l'accrochage. Donc ça a été aussi une constatation très, très triviale de cette crise sanitaire, puisqu'on montrait pour la première fois une exposition qui englobait le travail de 26 artistes. Plusieurs de ces artistes, une dizaine je crois, devaient venir pour l'ouverture. Tout ça a été très bien organisé et tout ça est complètement tombé à l'eau. Peu d'artistes ont vu l'exposition et ça pose évidemment un vrai problème. Mais voilà, cette question de la distance et la distance géographique, on l'a bien expérimenté à ce moment-là aussi, en disant voilà, pourquoi on connaît mal ces œuvres-là, qu'est-ce que c'est que la distance géographique qu'on croyait abolie miraculeusement avec les avions. Non, ça existe, c'est compliqué et ça résiste. Je vois que le temps file, alors j'avance. Avec Dianita Singh, vous voyez que là, on est dans une autre sorte de mouvement des images, une autre forme d'association. Vous voyez qu'entre les deux diapos, les images ont un petit peu changé de forme. On a essayé de respecter le souhait de l'artiste pendant le temps de l'exposition, de constamment essayer de changer l'ordre des images et de changer les points de vue. Rosângela Reino, grande artiste brésilienne, avec un travail là aussi sur la question de la matérialité photographique. Voilà, quand je disais pour moi c'était une bouffée d'air cette possibilité d'organiser cette exposition, vous voyez qu'il y a beaucoup de pièces qui sont vraiment des pièces extrêmement sculpturales et qui abordent vraiment la photographie comme un objet. La photographie ou l'image vidéo dans sa matérialité, parce que oui, c'est des images qui essayent souvent de faire oublier qu'elles sont des images matérielles. Et des artistes savent très bien insister sur cette question-là. Voilà le travail de Carlos Graicoa, grand artiste cubain. Ici, la quatrième partie, Histoire des paysages, qui fait, pour lequel l'œuvre de Carlos Graicoa fait une très bonne transition, puisqu'il dessine dans la matière même du tirage photographique qui est contrecollé sur aluminium, des faux bâtiments et reconstruit des architectures fictionnelles. Donc avec cette question, comment on inscrit l'histoire dans le paysage, comment on peut retrouver des traces de l'histoire dans le paysage, avec ici le travail de Dean Culley, cet artiste vietnamien, sur la question de la collecte du guano aux îles Chinchas au Pérou au XIXe siècle, qui a constitué une ressource énorme pour l'industrie et qui a amené les États-Unis à essayer de s'approprier plusieurs îles où pouvait être collecté ce guano, donc une recherche historique transgéographique aussi. Artiste égyptienne, Eba Amin, on va avancer vers Mario Garcia Torres, avec un travail sur la question de la preuve en photographie. Est-ce que la photographie peut être une preuve d'un événement? Mario Garcia Torres qui coexistait avec Sami Balogi. Sami Balogi qui est un artiste qu'on voit maintenant beaucoup en France, en Europe, qui a une carrière tout à fait exceptionnelle, avec une œuvre vraiment importante dont le musée a pu faire l'acquisition en 2015, deux ans après qu'elle ait été produite. Et Sami Balogi, c'est un bon exemple de cette longévité, la façon dont on s'intéresse à des artistes depuis longtemps, puisqu'il avait exposé pour la première fois en France au musée du Quai Branly, dans Photoquai, justement, dans la première édition, et puis qu'il avait participé à la première édition des résidences photographiques aussi, donc un artiste qui a construit une carrière remarquable et qu'on suit depuis longtemps. Ceci pour témoigner que l'exposition bénéficie de ces recherches anciennes depuis l'ouverture du musée. Gozette Lobondo, toute jeune artiste congolaise, qui a exposé pour la première fois, je crois, en France à ce moment-là, avec un travail produit pendant les résidences photographiques, avec un travail très remarqué, qui fonctionnait très très bien, qui captait l'attention des visiteurs, une artiste qui était la Benjamine de l'exposition. Et puis, pour terminer, la dernière partie, qui était là aussi une partie assez courte, mais assez dense, qui s'appelait « Passage dans le temps » et qui revenait sur cette question du rapport au temps, dont parlait tout à l'heure Pierre Saint-Garavelou, pour lequel j'ai fait appel ici à des artistes latino-américains, mexicains, vénézuéliens et colombiens, principalement parce que les artistes en Amérique latine, il y a une antériorité de ce rapport à la colonisation qui donne une réflexion, je trouve, de grande qualité, avec beaucoup de d'amplitude historique, justement, avec le travail de Joshua Ocon, là aussi un travail qui joue beaucoup sur les ressorts de l'ironie, avec une ironie assez grinçante et quelquefois à la limite de la caricature, mais qui permet justement de poser des questions assez inédites. Et de repousser un peu les limites de l'interprétation. La question de l'humour, ça pose vraiment la question de la responsabilité du visiteur, là en l'occurrence, qui doit se faire sa propre idée face aux questions quelquefois dérangeantes qui sont posées. Et voilà, je termine rapidement sur ces dernières pièces, avec une dernière pièce qui revenait sur la question du rapport au paysage et qui, d'une certaine façon, bouclait avec le titre de l'exposition. Sur la question du géographique, c'était quelque chose à laquelle j'ai prêté attention pour éviter que les artistes ne soient réduits à leur nationalité. Et donc, sur les cartels et dans les fiches biographiques, c'est des informations qu'on a scindées de façon à ne pas réduire les artistes à être des représentants de leur pays. Et donc, on a créé comme ça toute une série de décalages en termes d'informations, mais aussi en termes de parcours de visite, pour éviter en fait que le visiteur se trouve face à quelque chose d'attendu. Et donc il y avait une multiplication de surprises qui permettait de décaler, je crois, le regard qu'on avait sur ces œuvres a priori, et puis de laisser les œuvres au premier plan, en évitant d'imposer un discours tout fait sur les œuvres elles-mêmes. Donc, du coup, ça permettait vraiment de donner cette responsabilité au visiteur, de lui donner vraiment un rôle actif, de lui dire « bon, ben voilà, tout appartient au regard, donc allez-y, traversez et faites-vous votre propre idée ». Et donc, je pense que ça a assez bien fonctionné de ce point de vue-là. Je crois que l'exposition a pu trouver son public. Et j'ai reçu là il y a à peine 2 jours les résultats d'une étude de public. Et il y a 2 chiffres qui m'ont vraiment interrogée, parce que j'ai vu que 68% des visiteurs étaient des femmes. Donc j'ai dit à mes collègues, mais est-ce que c'est habituel? Ils m'ont dit, non, enfin, c'est habituel, la majorité de femmes dans les expositions. Mais là, on est effectivement 10 points au-dessus de la moyenne. Donc je ne sais pas à quoi c'est dû. Et le deuxième chiffre qui m'a rassurée, c'est le fait que les visiteurs témoignaient du fait que l'exposition avait changé leur regard ou l'idée qu'ils avaient sur la photographie et la vidéo à 73%. Ils disaient que ça avait changé les choses. Donc voilà, c'est un bon point pour moi, c'est rassurant. Je ne vais pas continuer plus loin, sinon je vais prendre tout le temps. Donc je peux répondre aux questions, bien sûr. Merci.
Merci beaucoup, Christine Barthes. Merci d'avoir pris le temps de nous replonger dans cette exposition qui avait fait notre bonheur, c'est vrai, au cours de l'été 2020, quand on pouvait encore aller dans les musées et voir des expositions. On en est bien On en est bien frustré aujourd'hui. Malheureusement, Pierre Zingaravelou et Cécile Debré ont dû nous quitter, mais il reste encore plusieurs de nos intervenants de cet après-midi, Sébastien Gocal, Aude Fanlo aussi. Je vous propose peut-être qu'on revienne sur la question qui avait été posée tout à l'heure et j'avais préféré qu'on avance un petit peu, qui était finalement de savoir comment dans nos institutions, et d'une certaine manière votre travail, hein, Christine Barthes, y répond un petit peu, comment dans nos institutions on peut traiter cette question d'une diversité qui n'est plus une diversité ethnique, plus une diversité sociale, mais qui peut parfois être l'une et l'autre, et puis autre chose encore, qui est celle du rapport entre les territoires, du rapport entre le centre et la périphérie. Et ce sont aussi des questions sensibles, ce sont des questions qui travaillent également notre société. Le mouvement des Gilets jaunes a été d'une certaine manière aussi l'expression, hein, de cette reprise de parole de la périphérie par rapport au centre. Est-ce que vous avez des idées ou expériences à nous faire partager à ce sujet, peut-être Aude ?
Oui, c'est en quelque sorte la condition humaine du MUCEM, de sa création, puisqu'on passe d'un musée qui est conçu comme une synthèse de musées de territoires régionaux, encore une fois, un musée de l'Europe et de la Méditerranée, qui est un musée trans-territoire, en fait. Et je peux donner un exemple, parce qu'évidemment, c'est ce que je connais le mieux, c'est celui des enquêtes collectes. Typiquement, on se retrouve avec des manières de faire des enquêtes qui sont complètement différentes si on est à une échelle réduite de régionale ou si on est à une échelle euro-méditerranéenne. Donc, comment ça se traduit ? Ça se traduit donc en termes d'équipe, parce qu'encore une fois, une échelle internationale, ça veut dire des enquêteurs et des acteurs internationaux. Ça se traduit par un principe un peu d'échantillonnage plutôt que de comparatisme qui serait un petit peu immodeste, je pense, mais sur des comparaisons sur différents territoires. Et puis, ça se traduit aussi par une sorte de manière d'aborder les choses, beaucoup plus par la question des circulations. J'ai évoqué Barvalo, c'est un exemple caractéristique d'une manière de faire une enquête à partir d'une communauté qui est dans l'itinérance, qui est sur une échelle de circulation très large. Je peux donner juste aussi un exemple qui me semble intéressant, c'est ce qu'on a fait avec le chercheur Raphaël Botiveau, qui est resté 2 ans chez nous pour un travail à la fois de programme de recherche et d'acquisition, et qui montre un petit peu les transformations qu'on a pu faire à ce sujet. Lui, il a travaillé sur vraiment un territoire régional et les collections qui sont associées à ce territoire, c'est-à-dire en gros le Briançonnais. Et un territoire alpin, donc très cadré. À travers ça, il a repris nos collections liées aux figures du passage sous toute forme. Hein, alors, depuis la transhumance liée à nos collections du monde rural jusqu'au tourisme. Et il a complètement retravaillé sur ce territoire à partir d'une enquête sur les mobilités en fait transnationales, les mobilités de part et d'autre de la frontière des migrants, et sur les réseaux à la fois de solidarité, d'opposition, etc. qui facilitent ou au contraire entravent ce passage. Et voilà, c'était une manière de relire nos collections sur les figures du passage. C'est une manière de reprendre et d'articuler, d'une certaine manière, des échelles régionales et transnationales.
Merci encore pour vos interventions. Alors, j'avais peut-être une question en réserve quand même, qui rejoint finalement les discussions que nous avons eues au sein du comité d'organisation de ces journées. Quand on a souhaité consacrer toute une journée autour de la question de la prise en compte de la diversité, des diversités, diversité de genre, diversité ethnique, décentrement du regard. Ce sont aujourd'hui des sujets de recherche, dans le monde scientifique, dans le monde académique. Ce sont des sujets, on l'a vu, dont les institutions publiques patrimoniales se saisissent. Ce ne sont pas non plus des sujets qui font consensus au sein de la société. Ce sont des sujets de débat et parfois de débat violent au sein du monde de la recherche. Ce sont des sujets aussi qui peuvent provoquer ou inciter à la contradiction ou à l'opposition. Est-ce que dans vos différentes expériences donc de conservateurs, de commissaires d'exposition, est-ce que vous avez été confronté, vous, à ces refus, à ces oppositions à la diversité? Et si oui, comment est-ce que vous avez été amené à les traiter, en
fait? Je peux dire un mot là-dessus. Je peux observer, effectivement, aujourd'hui, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport au positionnement qu'on a en tant qu'institution publique et musées nationaux, en l'occurrence, des fois de vouloir faire des sujets d'exposition dont il s'avère qu'on sait que par définition, c'est des sujets sensibles dès le départ, qui peuvent susciter débat, voire des graves polémiques. Et il me semble qu'aujourd'hui, il y a eu un séminaire de l'INP il n'y a pas si longtemps sur censure et patrimoine, aussi, malheureusement, on a une certaine tendance à s'auto-censurer, soi-même ou nos hiérarchies, nos institutions, pour ne pas aborder des sujets qui peuvent paraître parfois sujets à polémique. Je pourrais citer un exemple tout bête, hein, mais on a fait une exposition l'an passé sur l'alimentation qu'on a appelée « Je mange, donc je suis ». Et évidemment, à un moment donné, on parlait de l'alimentation carnée et l'équipe des expositions avait imaginé de présenter cette fameuse robe de viande qui se trouve à Beaubourg. Et là, voilà, donc il y a eu un souhait finalement, on a une sorte d'injonction de ne pas la présenter parce que par les mouvements qu'il peut y avoir autour des mouvements vegan et autres, de ne pas faire de la provocation. Et je trouve ça embêtant, voire grave, parce qu'effectivement, c'est un sujet très, très sensible. Hein. Et je ne rappellerai pas, mais si, je le rappelle pour mémoire, la question des caricatures et des caricatures de Charlie Hebdo. On est sur des sujets qui peuvent susciter quand même des débats très graves, aboutir à des drames. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné de savoir jusqu'où on peut aller. Et puis même dans des musées d'anthropologie, des fois, où on peut se prendre, excusez-moi l'expression, de se prendre les pieds dans le tapis aussi au nom de la bien-pensance, à ne pas vouloir provoquer, à vouloir respecter. Et c'est vrai que dans un pays comme la France, république laïque, il y a à s'interroger de jusqu'où on peut aller sans faire de la provocation, mais aussi en évitant l'autocensure, parce que je trouve que le chemin de l'autocensure peut nous mener loin, quoi, à ce moment-là, dans un politiquement correct où on ne peut plus parler de rien, au bout du compte.
Merci, Sébastien, oui.
Oui, merci. Je partage d'abord la position d'André sur l'autocensure, qui par définition n'est pas quantifiable ni visible, mais qui est extrêmement forte et qui est, si ce n'est pas au niveau des conservateurs, ça peut être au niveau... À divers niveaux, parce qu'évidemment, il y a des circuits de décision sont multiples. Rappelez aussi que ce que nous, en tout cas, on repère dans notre musée, mais je pense que c'est pour le cas de tous les musées, ce que les gens vont chercher dans un musée, c'est un savoir travaillé, un savoir établi, un repère. Et c'est ce qui, finalement, quand vous allez voir un musée, vous dites, là, je suis entre de bonnes mains, entre quelques... Et c'est cette position finalement de savoir établi qu'on doit utiliser pour porter des débats qui, eux, pour le coup, sont en général portés par des sphères médiatiques ou polémistes qui, eux, sont beaucoup moins stables. Utiliser cette position un peu de reconnaissance qu'on a et qu'on espère garder longtemps pour pouvoir aborder des questions difficiles. Alors, le musée de l'immigration, évidemment, c'est notre pain quotidien. Et on dit, nous, on essaye de refroidir les débats, quoi. Je pense que c'est finalement une des dimensions les plus intéressantes des musées, c'est celle de se permettre justement d'être prospectif, où c'est bien sur un sujet de société que sur des, je pense à l'art contemporain aussi, qui est évidemment qui est là aussi un sujet où 80% des gens disent c'est n'importe quoi. Le fait de le présenter dans un musée, de l'accompagner, etc., permet de montrer en quoi, non pas du tout, c'est au contraire un élément culturel extrêmement important.
Oui, j'avais noté tout à l'heure dans l'intervention de Pierre Zingarvelou, il a dit à un moment, et bien sûr l'art contemporain. Et c'est vrai que j'avais envie de vous questionner, mais finalement vos interventions sont souvent revenues sur cette question. C'est vrai que beaucoup de gens dans la sphère médiatique considèrent que la présence de l'art contemporain dans les musées les plus classiques ou les plus scientifiques, c'est parfois une tarte à la crème qui est en fait un acte de paresse intellectuelle un petit peu, qui consiste à faire un collage de discours l'un sur l'autre. Mais je crois que ce que vos interventions et ce que beaucoup d'interventions d'artistes contemporains montrent, c'est qu'au contraire, l'insertion de l'art contemporain dans le musée est un moyen justement d'introduire le débat, de déstabiliser et de questionner en fait.
Oui, si je peux répondre là-dessus, là, oui. Justement, avec cette exposition, ça faisait partie des enjeux pour le Musée du Quai Branly de montrer une exposition vraiment avec des artistes contemporains, une exposition que avec des artistes contemporains, et ça permettait aussi justement de leur laisser une parole assez libre, étant donné que dans ce projet-là, il y avait vraiment une évidence de différents points de vue. Ça permet, comme je le disais, de poser des questions parfois inattendues, qui arrivent comme ça un peu à la marge, par un biais, et qui du coup peuvent tout d'un coup être assez prégnantes. Et c'est pour ça que moi j'ai trouvé intéressant de travailler notamment avec cet artiste, Joshua Ocon, qui est un artiste mexicain qui a fait beaucoup d'œuvres qui sont quelquefois à la limite de la manipulation du visiteur ou des gens qui l'embringuent en fait dans ses créations. Et je voulais notamment montrer une des œuvres qui s'appelle Rebuilding History, qui était montrée dans l'exposition. Et je l'avais vue une première fois, et quand il m'a envoyé des photos, il avait en fait reconfiguré un petit peu l'œuvre sous une autre forme. Et une forme qui faisait appel justement à une grande caricature d'Indien avec des plumes, etc. Et là, j'avoue que je lui ai dit, mais si on monte cette œuvre-là au musée du Quai Branly, qui n'est pas un musée d'art contemporain, le public ne décode pas de la même façon, parce que c'est des publics différents qui pensent venir voir quelque chose de différent. Et donc, j'ai discuté avec lui et je lui ai dit, je pense que là, on risque d'avoir des visiteurs qui vont prendre ça pour une caricature. Et on a discuté de ça, etc., de la subtilité de la chose, et il a dit « Ok, on peut revenir à la première version de la pièce. » Parce que j'étais assez prête pour jouer ce niveau d'humour et de caricature, mais il y a un moment où si ça changeait, déjà je n'avais pas vu en vrai la deuxième version de la pièce, donc je me fie à ce que j'ai vu en vrai, c'est bête, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que là, je lui ai dit, je pense qu'on va, on va partir sur un autre chemin si on la montre sous cet aspect-là. Mais c'est un équilibre.
Je vois qu'une question a été posée sur le fil de discussion, alors qui déplace un petit peu la problématique de la représentation de la diversité dans les expositions vers la participation en fait de la diversité, notamment des publics empêchés, dans les expositions. Qu'en est-il des prisons, des hôpitaux, des centres sociaux, des malades mentaux? Voilà. Qu'est-ce qu'ils souhaitent réagir à ce sujet?
Je veux bien répondre là à nouveau avec oui. L'exposition pour les publics dits empêchés. On a effectivement un département des publics qui, pour les expositions au Quai Branly, propose des fiches spécifiques qui s'adresse notamment au public handicapé mentaux. Et c'est un exercice assez intéressant d'essayer de produire en parallèle au cartel qui s'adresse un peu à tout le monde, un cartel spécifique et un cartel simplifié. Et j'ai fait l'expérience là sur la dernière exposition de voir à quel point ça pouvait fonctionner bien. C'est-à-dire, c'est vraiment un exercice de synthèse qui doit aboutir à l'essentiel. Et finalement, j'ai trouvé ça assez intéressant, la façon dont ça réduisait certes le propos, mais pas de façon trop négative, de façon assez, justement, ça le tirait sur l'essentiel. Mais j'imagine, selon les expositions, c'est pas toujours si facile à faire.
Aude ?
Oui, peut-être aussi pour répondre à cette question du côté des collections et de la représentation, qui est un peu différente de celle de la participation à des expositions et de l'accès, puisque ce sont deux questions en miroir et en voilà, je peux simplement dire que C'est évidemment un sujet, c'est un sujet compliqué. Nous, on se l'est posé beaucoup. Je parlais de l'exemple des migrations quels objets au niveau des collections on peut collecter auprès des migrants. Comment est-ce qu'on peut aussi les représenter Ça s'est passé assez concrètement aussi avec la collecte confinement là, qu'on a lancée et qui vit évidemment à une participation qui était d'abord une participation des publics habitués au musée et confinés dans des espaces domestiques plutôt cossus et qui du coup se manifestait assez peu, enfin rassemblait assez peu de témoignages de sans-abri ou de réfugiés ou de d'autres formes d'enfermement parallèles comme celle des hôpitaux psychiatriques. Et du coup, c'est aussi la raison pour laquelle on a engagé un postdoctorant qui maintenant travaille auprès des collectifs d'entraide pour enquêter et collecter auprès aussi de cette population. C'est un exemple et il est certainement… on a aussi mené une enquête sur la prison des Baumettes et sur qui va être détruite. Et c'est une enquête à la fois patrimoniale puisqu'il s'agissait de documenter l'écriture, toutes les formes d'écriture sur les murs des Baumettes, mais qui s'associait, qui était menée avec l'inventaire et qui s'associait à des entretiens auprès des personnels de la prison et des prisonniers. C'est aussi c'est des exemples de manière de aussi inclure, encore une fois, dans la problématique des collections et de la représentation dans les collections, ces questions.
Merci. André ?
Oui, on n'a rien inventé, mais on a mis en chantier au Musée de l'Homme une pratique qui se fait déjà dans un certain nombre de musées. C'est aussi lié à l'épisode Covid qui nous amène à réfléchir. De toute façon, en plus, nous, au Musée de l'Homme, au Trocadéro, en général, le Covid a fait suite aux grèves, aux gilets jaunes. Tous les week-ends, on était fermés parce qu'on avait les gilets jaunes et aux grèves de la RATP. Donc, on a l'impression d'être dans un long tunnel un peu compliqué. Et donc, notre service médiation fait un gros travail en ce moment de visite guidée à distance. Alors, c'est pas nouveau. Je sais que le Louvre, le musée de la Grande Armée l'occupe, etc. C'est avec un robot, en fait, c'est pas une visite virtuelle, après on peut discuter vocabulaire, mais c'est-à-dire qu'on veut garder la présence d'un médiateur scientifique. Pour nous, on trouve que c'est très important dans un musée comme le nôtre, qui est à la fois un musée de société, un musée de sciences, qui est un médiateur scientifique, en tout cas pour les gens qui le souhaitent, dans une visite accompagnée, donc avec un dialogue avec ce médiateur scientifique. Simplement, au lieu qu'il ait le groupe qui le suive dans le musée, dans les espaces, c'est un petit robot qui le suit, qui le filme, et un certain nombre de gens via Internet, et ça peut évidemment toucher aussi bien les personnes lointaines, en zone rurale. Tout à l'heure, on parlait des centres et des périphéries. Ça peut être aussi des personnes dans des lieux qui ne peuvent pas sortir pour différentes raisons, prison ou autre. Donc on va voir ce que ça donne et on est en train de mettre ça en chantier. On espère être opérationnel à l'automne prochain. Voilà, ça fait partie des petites choses qui nous ont… ce qu'on vit en ce moment aussi va peut-être changer certaines de nos pratiques. Ça ne remplacera pas la visite réelle d'un musée, de voir des objets pour de vrai, mais ça peut peut-être permettre de toucher un certain public.
Si je puis juste me permettre cette remarque, c'est que nos discussions montrent aussi un malaise qui est un malaise de vocabulaire qu'on a rencontré sur d'autres sujets au cours de la journée. Parler des publics empêchés, parler de centres et de périphérie et de marge. Dès qu'il y a ce type de détour sémantique, il y a embarras. Enfin, c'est le symptôme d'embarras, je pense, malgré tout, qu'il faut reconnaître.
Il nous reste à vous remercier très vivement, vous qui avez participé à la table ronde et aux interventions de cet après-midi, mais aussi tous les participants de ces deux journées. On a eu la chance d'avoir un public assidu et actif. On peut se réjouir, je crois, même si on n'a pas la possibilité de se voir en vrai et de connaître l'expérience physique du colloque dans une salle, on peut se réjouir de voir que les échanges, quand même, au fil du temps, deviennent de plus en plus fluides avec la visioconférence et qu'on retrouve quelque chose quand même de l'animation et de la vie des débats qu'on aime expérimenter. Je voudrais remercier aussi le comité d'organisation de ces journées, ce qu'exposé veut dire, à nos collègues de l'INP qui participent aux séances de préparation, Hélène Vassal, Olivier Zeder, Séverine Blenner-Michel, Daniel Perrier aussi, et puis Jeanne Brun qui participe au comité depuis plusieurs années maintenant, et me réjouir aussi du partenariat avec l'École du Louvre, avec notre excellente collègue Anaïk Chatin, sa directrice des études. C'est un partenariat de plus dont on se réjouit grandement avec cette maison qu'on aime bien. Très bonne fin de journée à vous.